Florence Federle, le crime de la rancœur. Narration, Florent Houllier. Un jour d'hiver 2004, Florence Federle, mère aimante, épouse en apparence dévouée, fait basculer du jour au lendemain le destin paisible de sa famille. Sans préméditation, mais avec une détermination folle, en quelques heures, elle drogue son mari, le tue, le décapite, le démembre, avant de brûler ce qu'il reste de son tronc sur un parking aux abords d'une forêt. Florence est restée là, à observer quelques instants les restes de cet homme qu'elle avait aimé pendant 20 ans, fumant une cigarette en regardant son mari se consumer. C'est ce qui se serait passé, à en croire les résultats de l'enquête menée par la brigade criminelle de Versailles. C'est ce qui justifierait une condamnation de 15 ans de réclusion criminelle. Florence Federle aurait pu prendre 5 ans de plus. Lors du procès en appel, la cour s'est montrée un peu plus clémente. Car même si de nombreux éléments matériels semblent l'accabler, le doute persiste sur sa culpabilité. Aurait-elle pu tuer et découper son mari de sang-froid ? Pouvait-elle être animée par une haine assez forte pour en arriver jusque-là ? A-t-elle bénéficié de l'aide d'un complice ? Et quel complice ? Pendant l'enquête, aucun suspect n'a été appréhendé. Les policiers ont concentré leurs investigations sur Florence Federle, qui clame toujours son innocence malgré ses condamnations. Tout commence le vendredi 27 février 2004, en région parisienne. Aux abords de la forêt départementale des Grands Avaux, dans l'Essonne, presque 200 hectares d'arbres et de verdure, un cycliste est intrigué par la présence d'une masse sombre d'où se dégage de la fumée. Lorsqu'il s'approche, l'odeur est insupportable. C'est l'odeur de la chair qui brûle. La masse en question est en réalité une carcasse humaine. Ce qu'il reste du cadavre, dont on a enlevé la tête, les mains et les pieds, est allongé sur le ventre. La vision est insupportable. Le cycliste quitte le parking, pédale à toute allure jusqu'à la gendarmerie la plus proche. Il se rend à la brigade d'Evry. Lorsque les gendarmes arrivent sur place pour leur première constatation, ils se mettent en quête des membres restants. Les alentours sont fouillés, mais ils ne trouvent rien. Le vice-procureur de la République d'Evry, Jean-François Maïès, est dépêché sur place. Il confie l'enquête à la brigade criminelle de Versailles sous la direction de Jean Espitalier. D'instinct, les enquêteurs savent que l'auteur a tout intérêt à ce que la victime ne soit pas identifiée. C'est un professionnel du crime, ou du moins, une personne déterminée et particulièrement bien renseignée. Le fait que le cadavre ait été abandonné ainsi sur un parking, sans que l'on ait cherché à le recouvrir ou à le dissimuler, laisse supposer que l'auteur du crime avait hâte de s'en débarrasser. Parmi les premiers indices relevés, figure une bâche sur laquelle repose le corps. Elle est partiellement brûlée. Non loin du cadavre, les enquêteurs trouvent un liner de piscine bleue. Sous le corps, il y a également des morceaux de chiffon blanc brûlés, qui ont probablement servi pour le départ du feu. Un dernier élément, extrêmement important pour le dénouement de l'enquête, est découvert au moment où le corps est enlevé. Un mégot de cigarette porte des traces de rouge à lèvres. L'analyse ADN révélera plus tard la présence de 2 ADN. Le premier est celui de la victime, l'autre celui d'une femme. Pour l'heure, on ne tire aucune conclusion hâtive. Les enquêteurs cherchent à identifier la victime, mais avec la tête manquante et la présence d'aucun signe distinctif sur le tronc, les indices sont très maigres. On cherche également des témoins plus probants que l'infortuné cycliste en interrogeant les données téléphoniques du secteur, les transactions réalisées dans les stations-service du coin. Le corps a été calciné après avoir été abondamment arrosé d'essence. Peut-être que l'auteur du crime se serait arrêté à une station-service en chemin pour remplir un bidon d'essence, sans nécessairement faire le plein de son véhicule. Les premières recherches sont vaines. Les enquêteurs n'obtiennent pas plus de réponses dans le fichier des personnes portées disparues. L'autopsie du corps permet au moins de confirmer que l'identité de la victime est celle d'un homme. Sa tête, ses mains et ses pieds ont été découpés à la scie électrique, pendant que la victime était allongée sur le dos. L'examen interne du corps calciné révèle un foie éclaté et la cinquième et sixième vertèbre cassée. La mort a été particulièrement violente. Les dommages sont comparables à celles d'un accident de la route ou de la chute d'un immeuble de 3 étages. Un examen toxicologique permet d'affirmer que la victime n'était pas en pleine capacité physique. On décèle la présence dans son organisme d'un somnifère, du zopiclone et de 2 anxiolytiques. Les causes exactes de la mort ne peuvent pas être déterminées avec plus de précision, vu l'état du cadavre. Le médecin légiste remarque un fait inhabituel. Tous les membres n'ont pas été découpés dans les mêmes proportions. La cheville droite a été amputée de manière plus importante que la cheville gauche. Pour l'heure, c'est un cadavre sans nom. Il faudra attendre au moins 3 mois de plus pour savoir que la victime n'habite qu'à quelques dizaines de kilomètres de là. Le jeudi 26 février, la gendarmerie de Milly-la-Forêt accueille dans ses locaux une femme, un peu désorientée. Elle demande à parler à un gendarme. Elle déclare que son mari, Yves Bourgade, avec qui elle réside depuis plusieurs années à Moigny, est parti précipitamment ce jour-là. Alors qu'elle était dans la salle de bain, depuis la fenêtre, elle a aperçu son mari porter un gros sac poubelle qui semblait contenir ses affaires et monter du côté passager dans une voiture grise. La voiture a ensuite démarré. Yves est sans doute parti refaire sa vie avec une autre femme. Son épouse en est persuadée. Les gendarmes tempèrent. Ils lui disent que son mari va probablement revenir. La femme, Florence Federlé, dit que non. Yves lui a annoncé son intention de partir avec une femme beaucoup plus jeune qu'elle. Ce qui paraît étonnant aux gendarmes, c'est qu'Yves Bourgade aurait laissé derrière lui sa famille, ses amis, ses enfants, mais aussi son entreprise de maçonnerie. Car au moment de son départ précipité, l'entrepreneur avait de nombreux chantiers professionnels à honorer. Le couple était en train de traverser une crise financière. Florence apparaît désespérée. Elle ne travaille pas et n'a pas de revenus. Elle a peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. La déposition faite auprès des gendarmes, Florence rentre seule et contacte un par un les membres de sa belle famille et les amis d'Yves. Tout le monde est très étonné de ce départ précipité, en particulier la sœur du disparu, Edith Delacour, et la mère d'Yves Bourgade. Toutes deux savent qu'il ne ferait jamais ça. C'est un père proche de ses enfants, très complice avec son fils aîné. Il n'aurait jamais pu lui venir à l'idée de l'abandonner sans lui donner de nouvelles. Et pourtant, c'est bien le cas, au moins en apparence. Les semaines passent et Yves Bourgade n'a toujours pas refait surface. Toute la famille s'y met pour le joindre sur son téléphone portable, mais c'est peine perdue. Les messages laissés sur la boîte vocale ne sont jamais ouverts. Puis, la ligne a fini par se couper. Encore un détail qui met tout le monde aux abois. Un entrepreneur qui abandonne son téléphone portable, c'est inconcevable. Les proches d'Yves reconnaissent tout de même une chose. L'entrepreneur a un tempérament de fêtard et a toujours assumé ses infidélités, y compris en présence de sa femme. Même passé 40 ans, il continue toujours à agir comme un jeune homme de 20 ans. Yves boit plus que de raison, il sort tous les week-ends en boîte de nuit, fait de nombreuses rencontres dont il se vante, notamment des femmes avec lesquelles il a parfois des aventures extra-conjugales. Il rentre souvent tard dans la nuit avec ses amis, mais pour Florence, c'est devenu une habitude. Elle semble avoir accepté ses virées nocturnes et ne le dispute jamais. Il lui arrive parfois de lui préparer un repas quand il rentre au beau milieu de la nuit. Les dimanches sont toujours difficiles lors des réunions de famille, Yves peinant parfois à dessouler pour le déjeuner dominical. Un jour, il annonce devant tout le monde qu'il a eu une aventure la veille avec une femme. Florence n'a pas paru plus choquée que ça, d'après les témoins de cette scène. Une attitude en total décalage avec un mariage pourtant heureux en apparence. Le week-end après la disparition, la sœur d'Yves contacte sa belle-sœur pour essayer de la rassurer, de la réconforter compte tenu des circonstances. La sœur du disparu se montre compatissante, mais au téléphone, Florence ne paraît pas plus affectée que ça. En seulement 2 jours, son attitude a changé. Elle, qui portait lourdement sur ses épaules un statut de victime, arbore la situation avec un détachement presque anormal. «